Vous êtes donc installé en libéral. Alors une question qui m'intrigue un petit peu. Je voulais savoir si la sortie de votre livre sur la médecine psychédélique avait contribué à développer votre clientèle.
J'ai eu des mails, j'ai eu des appels téléphoniques, j'ai eu des gens qui voulaient des séances avec des psychédéliques, mais je leur ai dit que c'était pas possible, c'était probablement pas légal, et que c'était une structure que je pouvais pas leur offrir. Mais non, on peut. Si, peut-être, on va dire, allez, peut-être que le livre m'a amené directement deux patients, quoi.
D'accord.
Mais c'est tout. Non, non, et d'ailleurs, les livres sont. Enfin, moi, je les écris pas dans cette optique-là, hein. C'est pas fait ni pour attirer, ni pour drainer une clientèle particulière. Le chamanisme, notamment, je me vois mal, pour l'instant en tout cas, à battre du tambour dans mon cabinet, parce que c'est les gens viennent voir un psychiatre, comme psychothérapeute, il faut pas trop les harceler, mais c'est vrai que. Comme je dis, ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients qui, en me connaissant, en ayant travaillé avec moi, en étant satisfaits, puis surtout en explorant eux-mêmes le chamanisme, en ce moment, ils veulent quelque chose de plus. Mais là, c'est bien particulier. C'est vraiment une évolution, une coévolution, il y a une alliance thérapeutique, on sent les choses un peu de la même façon, et là, on peut intervenir, mais sinon, non.
Vous avez parlé tout à l'heure un peu des techniques que vous utilisiez,
oui.
Les différentes techniques. Peut-être c'est le moment de nous rappeler brièvement quelles sont les 5-6 techniques principales que vous utilisez lors de vos entretiens. Et une deuxième question par rapport à ça, est-ce qu'il y a des gens que vous ne puissiez pas aider, en vérité, qui viennent vous voir pour des problèmes particuliers et que vous ne et à qui vous dites que vous ne pouvez rien pour eux. Et indirectement, cette question, c'est quelles sont vos limites pratiques, tout simplement.
Alors, il y a peu de gens à qui je dis que je peux rien pour eux, parce que heureusement, il y a peu de gens trop gravement atteints qui viennent me voir, ce qui n'était pas le cas, effectivement, quand on travaille en psychiatrie classique. C'est difficile de faire une psychothérapie pour des personnes qui sont prises dans l'alcoolisme, la toxicomanie. Ça l'est aussi pour tout ce qui est anorexie. Et là, souvent, ça demande aussi que les gens soient aidés par des structures, parce qu'ils ont besoin d'aide parfois 24 heures sur 24, ou alors ils ont besoin d'aide au moment où vous n'êtes pas là, parce que le cabinet est fermé. Donc là, vous pouvez pas, dans un cadre où vous recevez sur rendez-vous, être disponible comme ça, quoi. C'est pas possible. Il faut pas mentir aux... Enfin, moi, je veux pas mentir aux gens, je peux faire quelque chose pour vous. Mais sinon, je pense qu'aussi, il y a un truc, c'est quand on développe certaines ouvertures en soi, les gens qui... correspondent à ça, viennent vous voir comme par magie. On peut appeler ça des synchronicités. Mais ça, tout le monde le remarque. Hein. Dès que vous êtes en train de lire un livre sur un truc, tiens, comme par hasard, le lendemain, il y a quelqu'un qui vient vous faire un truc qui était justement dans le livre. Enfin, en gros, quoi, c'est une caricature. Mais... Donc, grâce à ce phénomène de sélection naturelle, on va dire, j'ai peu de gens que je ne peux pas aider. Ben, les techniques que j'ai apprises, bon, outre la psychothérapie de type analytique, parce que j'avais travaillé aussi à Lausanne chez Gilles Hieron qui a mis en place ce qu'on appelle les psychothérapies d'inspiration psychanalytique ou thérapie analytique brève. Donc ça, j'ai ce background au moins avec ma psychanalyse aussi, et j'utilise notamment dans le cadre des thérapies graves le concept de relation d'objet internalisé, qui est un concept psychanalytique mais qui s'accommode très bien avec les autres écoles. Donc ça, c'est très pratique. Ça, c'est pour comprendre, c'est pas pour intervenir, mais c'est pour comprendre la structure des problèmes des gens. Mais sinon, j'étais formé aux thérapies comportementales et cognitives, j'étais formé en thérapie familiale systémique, je me suis formé à l'EFT, à l'EMDR, à l'hypnose. Et puis, je ne sais plus quoi, j'ai oublié. Bon, la Gestalt m'a laissé effectivement aussi, même si je ne me suis pas formé à la Gestalt, mais j'ai fait comme 2 ans, donc ça m'a laissé quand même un arrière-plan aussi des outils. Là, je fais une formation yoga nidra, qui est le yoga du rêve, du sommeil, des états modifiés de conscience. Je fais aussi du yoga par ailleurs, j'ai fait de la méditation à un certain moment. Enfin, je veux dire, c'est plus que les techniques, c'est le vécu. C'est ce que j'ai pu ressentir, c'est ce qui a pu s'ouvrir en moi, c'est ce qui a pu se créer, parce que tous les jours, je crée pratiquement, j'ai un cahier où je note des choses un peu inhabituelles qui se sont passées, les idées que j'ai eues, qui m'ont été inspirées, mais tous les jours, pratiquement, je note quelque chose dedans. Peut-être qu'un jour ça fera un livre, je sais pas, mais les techniques, c'est pas quelque chose de mort qu'on implante dans votre cerveau, puis après vous répétez, vous mettez en place automatiquement. C'est vivant. Et tous les jours, je peux dire, enfin peut-être pas tous les jours, mais presque, j'en découvre. Donc, vous voyez, c'est cloisonné hein, quand on dit EMDR, EFT, hypnose, c'est cloisonné, mais en fait dans la réalité, ça peut se mélanger. Il y a des choses qui viennent, des créations qui sont issues de ce mélange. Et...
On sait qu'un chaman est très en contact avec la nature. Mmh. Un chaman est élu avant tout par les esprits, mais aussi par sa tribu ou par sa lignée. Voilà. Quels sont, selon vous, puisque on sent à la différence peut-être d'un Yann Kounen, que pour l'instant vous restez vous restez quand même dans le domaine occidental de la médecine, à la limite un peu comme Jérémy Narby, du côté un peu rationnel des choses. Alors vous allez vous en expliquer, mais ma question c'était quels sont selon vous les critères d'un bon psy?
Là c'est un entretien à part entière qu'il faudrait. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que je reste sur le versant rationnel parce que...
C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas à parler comme Carlos Castaneda à partir de son cinquième ou sixième livre par exemple?
Ah oui. Ah bien sûr, parce qu'il faut aussi parler le langage des gens qu'on rencontre, sinon ils sont perdus. Mais on pourrait dire que moi aussi j'ai mon univers parallèle et moi aussi j'évolue dans une dimension entre guillemets ou dans des dimensions dont je peux pas parler comme ça parce que c'est... Alors là par contre, dit à chaud, ça serait vraiment prendre le risque de discréditer et de ne pas être compris. Parce que dans le chamanisme sans plante, on peut aller très loin. Hein. Et on peut arriver à des choses bizarres qui se passent, des visions que vous avez, qui sont confirmées par les autres, parce que quand vous voyez quelque chose dans quelqu'un, ou que vous connaissez son animal pouvoir, ce qu'il vous l'a dit, ou qu'il se passe des phénomènes synchrones, enfin, je veux pas dire, il y a des choses qui sont presque un peu magiques même. Mais ça, alors ça, ce serait des anecdotes. Mais si je commençais à vous raconter des anecdotes, je préfère qu'on reste plutôt dans le général. Okay. Et l'autre question, c'était quoi? C'était
les critères peut-être d'un bon psy.
Oula. Bah, bon psy, c'est celui qui, en tout cas, sait qu'il sait pas. Ou c'est celui qui sait que il peut pas se reposer sur ses lauriers. C'est celui qui sait qu'il faut pas critiquer les approches des autres sans les avoir expérimentées. Et qu'inévitablement, quand il les expérimente, il voit que les autres sont pas plus bêtes que lui. Et s'ils avaient créé ou proposé telle ou telle approche, il y avait une raison précise. Donc c'est quelqu'un qui s'enrichit continuellement, qui est en permanence en évolution. Qui peut pas se prendre trop au sérieux, qui peut rire avec ses patients, et puis qui n'en veut pas à ses patients de ses propres limites. C'est-à-dire que quand il est confronté à une difficulté, ne se dit pas, oh ben, le patient est résistant, oh ben, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il essaye de rester avec le cœur ouvert, avec de l'amour. Moi, j'irais à mon psy, alors ça fait encore mystique, mais c'est pour ça, c'est difficile de le dire, mais c'est quelqu'un qui aime ses patients, quoi, ou quelqu'un qui peut ressentir avec le cœur ses patients et qui peut leur dire des choses qui viennent du cœur. Et puis, moi, alors, je rajouterais quelqu'un qui s'est ouvert aux états modifiés de conscience. Après, ça, c'est ma définition. Peut-être c'est comme ça que moi, j'ai l'impression de devenir un meilleur psy. Peut-être ça serait pas pour tout le monde pareil. Parce que ça fait prétentieux de dire le bon psy. Ça veut dire que je sais. Ouais. Et donc, moi, je suis le bon. Ouais. J'en sais rien. Je suis pas, comme disait Chiptroki, c'était pas Dolto, c'était, un psychanalyste d'enfant qui est mort, mais qui était très connu, ou des parents suffisamment bons, voilà. Ben moi, j'essaie d'être un psy suffisamment bon, c'est-à-dire pas parfait, pas qu'à la chose infuse, qui accepte aussi d'avoir le courage de pas savoir, et puis à partir de ce non-savoir, de s'ouvrir, d'attendre une réponse qui vient d'ailleurs, et puis de la tenter. Moi, je vois souvent, j'ai un peu peur, hein, chaque jour. C'est pas de la peur, mais c'est un peu d'anxiété. Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Puis je me lance. Puis dans l'hypno, je me lance. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais dire, mais j'y vais, quoi. Ça demande un peu de courage. Un peu comme quand on fait du saut élastique, un peu comme quand on va dans le noir les yeux fermés, on sait pas où est, mais on y va, quoi. Ça demande de la confiance. Mais je veux pas que ça soit ce que je suis en train de vous dire, que ce soit moi qui décide le critère du bon psy, parce que j'en oublie sûrement parce que moi-même je les ai pas, donc je suis pas assez bon pour dire que ça fait partie du bon psy. Vous voyez ce que je veux dire?
On sent, vous écoutez, quand même une réelle volonté à aider, enfin, voire même plus que ça, le patient.
Ma vie tourne autour de ça, hein, c'est-à-dire que je pense qu'à ça, hein, c'est-à-dire pas seulement aider, mais aimer. Alors aimer mes enfants, ouais. Mes amis, pas faire trop de mal aux gens par mon manque de conscience, et puis être capable de guérir, enfin, d'aller assez loin avec leur accord et leur participation dans l'âme des gens pour que quelque chose se passe et qu'ils leur permettent d'atteindre cette dimension spirituelle, enfin de découvrir leur lumière, de découvrir leur propre amour. Et ça, c'est vrai que j'y pense sans arrêt. Hein. C'est, d'ailleurs, est-ce que je pense à autre chose dans la journée, à part l'amour, la mort, la guérison? Oui, sûrement, je pense à autre chose. Quand je regarde un match de foot, Lyon, qu'on a gagné d'ailleurs, Lyon-Bordeaux, ou quand je mange quelque chose de bon, ou quand je vais dans la nature et que je suis ému par ce qui s'y passe, ou que je me relis par le cœur ou pas avec les arbres, ou je sais pas quoi, ou que je respire avec la terre en mettant ma main sur la pelouse, ou que je fais découvrir une petite fille de 14 mois, c'est de nature aussi. Enfin, il y a plein de choses. Ou quand je suis avec ma femme et que je ouvre mon cœur. Enfin, mais c'est vrai que c'est là depuis un certain temps, depuis on va dire 5 ans, je suis interpellé par ça, quoi, en fait.
Bon, on sait que vous avez expérimenté beaucoup de psychédéliques, voire de plantes chamaniques, etc. Ouais. Est-ce que ça vous a aidé justement à vous rapprocher de ce qu'on pourrait appeler un centre avec un grand C,
ouais,
qui englobe l'amour et tout le reste?
Ouais, énormément. Alors moi, chacun a sa substance. Moi, j'en ai une particulière avec laquelle j'ai fait de très très bons voyages, mais dont je peux pas parler ici, bien sûr. Mais voilà. Mais bien sûr. Ça m'a fait comprendre que le cœur de l'homme est au cœur de l'univers, que l'amour, malgré toutes les apparences que peut avoir ce monde fait de dualité, que l'amour est au centre de tout et est une force agissante qui réunit. Religion, ça veut dire religere, ça veut dire relier. Yoga, ça veut dire réunir. Tout va dans la réunification avec l'amour. C'est une force d'attraction, la loi de l'attraction, et qui gère l'univers vraiment. Et dès qu'on s'y ouvre, dès qu'on ose penser que c'est possible et qu'on, par différentes techniques ou bien simplement par une présence aimante à son corps et puis à ce qui est tout autour, avec cette conscience que vous et moi, on est la même personne, mais sans s'en rendre compte, ouais, et ben, dès que la magie de l'amour opère, quoi. Et ça, c'est vraiment, les psychédéliques m'ont vraiment, j'ai des expériences que Basto appelait les pics expériences, les expériences au sommet, qui servent un peu comme des phares dans la nuit. C'est-à-dire quand je doute un peu, ou quand ma névrose reprend un peu le dessus, je me rappelle de ça, tac, et ça me remet dans la bonne direction. Et ça te fait pas tout, les psychédéliques. Ça donne la direction, ça montre que c'est possible, ça montre ce qui existe vraiment. Mais après, quand on n'est plus dans l'effet de la substance, ben, il y a tout le travail à faire au quotidien, d'intégration, de digestion, puis surtout d'appropriation de la spiritualité du quotidien. Alors là, c'est la méditation, c'est le yoga, c'est le tai chi, c'est simplement essayer d'avoir le moins de jugement possible, de pardonner, de faire le moins de mal possible aux autres. Et ça, c'est le quotidien. Hein.
Alors justement, est-ce que par rapport à tout ce que vous venez de dire là, qui est très juste hein, en soi, est-ce qu'on peut dire que justement la maladie n'est pas un écart par rapport à cette droite ligne, je pense au Christ ou à d'autres prophètes qui sont venus l'annoncer tout simplement.
Alors on peut le dire, mais quoi qu'il faut être prudent, parce que c'est vrai que bon, pour les chamans, je vais simplifier. Toute maladie est un déséquilibre énergétique. Hein. Quand on fait un recouvrement d'âme, on récupère des énergies. Quand on fait une extraction, on enlève des énergies. Et ça, c'est ils sont tout à fait compatibles avec le yoga, avec les chinois, et l'acupuncture, etc. Avec les magnétiseurs. Et on peut dire aussi que si on n'est pas dans l'alignement spirituel de notre mission, qui est d'apprendre à aimer, hein, de toute façon, sous toutes ses formes, toutes ses déclinaisons, certainement que le corps peut tomber beaucoup plus facilement malade. Mais, bémol, il faut se méfier parce qu'il y a des gens qui étaient des saints et qui étaient sans arrêt malades. Ou il y a des grands maîtres spirituels qui sont morts de cancer, de trucs pas possibles, alors que si on était dans... Ils sont branchés sur la lumière, sur l'amour, ils devraient pas être malades, leur corps. Donc, ça veut rien dire, parce que la maladie peut être là aussi pour aider à progresser, pour donner un sens à l'existence, pour nous rapprocher de la mort et nous rappeler l'importance de nous préparer à la mort. Parce que la mort est vraiment un exercice spirituel qu'on prépare en étant conscient de sa névrose, qu'on prépare la nuit en étant lucide dans les rêves, et qu'on prépare quand on est mort en restant lucide pour pas retomber dans des univers que le mental fabrique, parce que là, après la mort, le mental devient tout puissant, et aller vers la lumière, des horizons plus spirituels.
Alors justement, là on est dans un terrain intéressant, en plus on se trouve à Lyon, vous n'êtes pas sans savoir que... Au siècle dernier, un grand guérisseur est venu, Philippe de Lyon. Ouais. Et surtout, donc, Lyon est une ville qui a un rayonnement depuis deux siècles, notamment spirit, sur le plan magnétique également.
Oui,
il y a eu une vague d'acupuncteurs également. Mais surtout...
Philothérapeutes, nogiers, etc.
Voilà. Et surtout, donc, la venue de Maître Philippe, c'était au début du siècle dernier. Donc, j'allais vous demander si vous aviez une opinion sur ce personnage, sur son rayonnement, son charisme, ou voire ses dons. Et est-ce que vous aviez conscience de cette longue tradition de communication avec l'au-delà, sur Lyon?
Oui, je suis déjà allé une fois comme ça pour voir dans un cercle lyonnais qui est au centre-ville, ou qui se réclame de Maître Philippe, hein, qui se réunit tous les, toutes les semaines. Et c'est impressionnant parce que les spirites sont en cercle, enfin en demi-cercle, ils font des soins, puis après on est dans la salle, on pose des questions. Enfin non, ils nous appellent, si on a laissé un papier avec notre prénom, puis ils nous disent des choses sur nous. Il y a aussi une dame dont je me souviens pas le nom, mais qu'un confrère va voir de temps en temps, qui une fois par mois vient sur Lyon. C'est pareil, elle fait une petite conférence, puis ensuite elle interpelle les gens dans la foule et elle parle. Les défunts parlent à travers elle. Elle donne des messages aux gens. À Lyon, il se passe pas mal de choses de ça. J'étais au courant de toute la tradition spirituelle et spiritique, Oui, enfin, oui, les spirites, quoi, à Lyon. Alors, est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est pas un hasard, j'en sais rien. Ouais. Moi, je sais que j'ai un confrère, par exemple, le docteur Rosenfeld, qui avait écrit le livre sur Méditer, c'est soigner, aux arènes, ouais. qui est bien connu dans le milieu de la méditation, et qui lui aussi est en train de devenir, de s'ouvrir complètement, et, il fait des choses pas possibles avec le MDR, le CD. Pourtant, il travaille dans une clinique très occidentale, la clinique Lyon Lumière, à mes yeux, qui est une clinique la meilleure du Rhône, peut-être la meilleure de France. Hein, les soignants sont très très bien formés, il y a plein d'activités, les patients qui reviennent sont ravis. C'est vraiment la clinique, le Lyon Lumière, qui est dirigé par le docteur Lemoine, qui est connu aussi au niveau français. Et donc, ce collègue-là, on coévolue ensemble. Hein, parfois, même, on est un peu des âmes sœurs, entre guillemets. Spirituel, ouais. Et lui aussi en train de devenir, peut-être il va devenir un guérisseur plus tard. Enfin, donc je dis ça parce qu'à Lyon, effectivement, puis c'est pas le seul, hein, j'en connais d'autres. Hein. Et bien à Paris, il y a sûrement ça. Mm-hmm. Mais peut-être que Lyon est un lieu favorable mm-hmm. pour l'éclosion de ce genre de spiritualité ou de pratique.
Donc par rapport au livre, même si les termes et les techniques employées sont différentes entre donc votre pratique et celle de Laurent Hugueli, qui est donc chaman, mmh. on sent que dans votre pratique, et vous le dites vous-même, quelque chose échappe. Idem pour le chaman qui lui...
Pas ma raison, à mon mental. Parce qu'il peut y avoir de la raison dans les émotions, il peut y avoir de la raison dans le corps éthérique, il peut y avoir de la raison dans le corps physique. Ouais. Ça échappe à mon mental.
Donc dans votre mental... Idem pour le chaman, oui. Pour qui les esprits agissent à travers lui. Ça, il le répète plusieurs fois donc dans le livre. Êtes-vous d'accord donc avec cela? Quelque chose échappe?
Ah ben bien sûr, de toute façon, tous les guérisseurs, que ce soit les guérisseurs philippins, les guérisseurs brésiliens, les magnétiseurs de nos contrées, les chamans, ou même quand on fait l'hypnose et puis que c'est contact, on dit d'inconscient à inconscient, c'est peut-être parfois d'extra-conscient à extra-conscient, je sais pas, mais en tout cas, bien sûr qu'on devient, on réquit. Aussi, on est un canal creux. C'est nous qui laissons passer l'esprit à ce moment-là. Et qui, l'esprit qui nous inspire ou qui transmet son énergie à l'autre. Alors, c'est pas simple parce que quand on est dans une psychothérapie conventionnelle occidentale, c'est difficile, surtout si vous travaillez toute la journée, d'être en permanence ouvert en canal et tout. Donc, ça se fait par moments. Je peux pas être tout le temps en transe, et c'est pas possible. Mais c'est vrai que, alors, c'est particulier parce qu'en même temps, quand on devient canal, on va dire, allez, pour dire simplement, mais je voudrais pas que les propos soient, parce que après, quand c'est simple, les propos peuvent être caricaturés, déformés, mais on est canal pour l'esprit, la lumière, l'amour, et en même temps, on n'est pas seulement canal, on devient l'esprit, la lumière, l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous dites vous ouvrez la lumière, vous traverse. C'est vraiment, c'est très simplifié ce que je dis, mais c'est ouais, parce que sinon, si on bon, et ben en même temps vous deveniez cette lumière. Donc vous êtes canal et en même temps vous êtes ce qui vient dans le canal. Ouais. Mais c'est pas vous, c'est pas votre mental, c'est pas votre ego. Ouais. Ça c'est différent. C'est-à-dire on n'est pas là pour être un sauveur ou pour se prouver qu'on est un bon thérapeute. Ou ça peut arriver. Hein. J'ai des fois, hein, je me sens un peu sauveur de toi, un peu bon thérapeute et tout. Mais ça c'est mon ego qui parle. Et je fais la différence des moments de pure création ou de pure bénédiction, presque on pourrait dire parfois, de petits miracles entre guillemets. Et là c'est sûr que là dans ces cas-là, moi c'est spontané. Hein, ça m'arrivait même avant que dès que j'ai commencé, je prie quoi. Enfin je dis merci quoi, merci de me permettre d'être le passeur pour ça, merci de me permettre d'assister à ça, merci de, enfin là il y a vraiment de la gratitude. Donc c'est que ça vient pas de moi. Je serais pas, enfin j'aurais de la gratitude vis-à-vis de moi-même si quand j'arrive à être courageux ou tout, mais là c'est autre chose. Bien sûr, mais ça c'est le principe de base. Hein. En gros, un des principes de base c'est l'énergie vient de la terre ou du ciel, elle arrive dans le cœur. Et le cœur le redistribue avec les mains ou avec les paroles ou avec l'énergie ou ce que vous voulez, mais ou avec des idées créatives.
Vous parlez, je pense, une fois dans le livre. Vous employez le mot éternité.
Je dis que la conscience
voilà, c'est ça.
Est éternelle. La conscience, les études de parapsychologie le montrent, hein, que la conscience c'est ce qu'on appelle non local. Ouais. Non local, ça veut dire que elle n'est pas dépendante du corps. Quand le cœur meurt, elle survit. Et elle peut voyager à distance. Alors les chamans, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent ce qu'on appelle les capacités de clairvoyance, clairaudience, pourquoi pas télépathie, précognition, la divination chamanique, c'est une grande branche de chamanisme, ou de rétrocognition, voir dans le passé, et voilà, sortir du corps, etc. Mm-hmm. Ça, ça a été démontré maintenant. Hein. Il y a des livres de Tarte, Charles Tarte, ou de Dean Radin, R-A-D-I-N, la conscience invisible, enfin qui ont fait des méta-analyses sur les 100 dernières années de tous les travaux parapsychologiques qui montrent que la conscience a ces propriétés-là. Mmh. Et d'ailleurs, dans les NDE, dans les expériences de mort imminente, quand les gens se voient sortir de leur corps, ils ont une vision à 360 degrés, ils entendent par télépathie ce que disent les chirurgiens ou ce que se disent les chirurgiens dans leur tête, ils voient ce qui se passe dans la pièce à côté, et c'est vérifié après. Il y a des gens qui disent, oui, c'est bien ça, comment vous avez fait? Vous aviez les yeux fermés, électroencéphalogramme plat, vous respiriez plus, on a mis des trucs sur vos yeux, et vous avez vu la marque de l'outil qu'on utilisait, que personne ne connaît et tout. Donc la conscience a vraiment des propriétés énormes dès qu'elle quitte le corps. Et en même temps, elle est immortelle, éternelle. Et elle va continuer à évoluer après la mort du corps. Donc c'est ça que je dis, oui, effectivement.
Donc la conscience est éternelle, infinie.
Infinie.
Voilà. Croyez-vous, tout simplement, en Dieu? Vous disiez tout à l'heure que quelquefois vous remerciez. Est-ce que c'est Dieu que vous remerciez, ou peut-être vous n'avez pas envie de répondre à cette question?
Je remercie la conscience et l'amour qui imprègne l'univers. Je ne sais pas d'où... Dieu, ça fait figure anthropomorphique, barbe blanche et tout. Non, ça, j'y crois pas du tout, évidemment. Mais Dieu est partout. C'est-à-dire qu'il est à la fois immanent, c'est-à-dire qu'il est présent partout, et il est transcendant. Il est au-delà de l'ego et il est au-delà de la matière. Moi, j'appelle, comment on peut dire, esprit de l'univers, conscience cosmique, je sais pas, être, l'être. Eckhart Tolle, il dit l'être. Il dit, c'est bien le mot être, parce que personne ne peut se l'approprier, on ne peut pas être le seul détenteur de l'être. Alors que Dieu, il y a des religions qui le sont appropriées, puis si vous n'êtes pas d'accord avec leurs yeux, il faut vous cacher. Hein.
Merci beaucoup Olivier Chambon, on vous souhaite bonne route. Peut-être le mot de la fin, si vous voulez ajouter quelque chose.
D'abord, merci à vous de m'avoir interviewé, puis de me permettre de dire des choses. J'espère qu'elles peuvent être plus ou moins utiles à certaines personnes ouvertes. Le mot de la fin... C'est soyez sûr que l'amour est au centre de l'univers et que la conscience est éternelle. Voilà le mot de la fin. Parce que ça, c'est du béton scientifique. C'est-à-dire que même maintenant, les scientifiques le montrent, ça. Et ça va être peut-être l'objet d'un prochain livre chez Duno. Je le saurai dans une semaine. Sur les leçons de la mort, quoi. Les leçons de vie et d'amour de la mort. Comment la conscience survit à la mort du corps physique, etc., tous les travaux scientifiques et toute la façon dont on peut l'utiliser pour soigner les gens, soit qui sont endeuillés, qui souffrent de leur deuil, soit les gens qui ont peur de la mort, soit les gens qui sont passés au-delà, puis qui sont un peu restés accrochés, du travail de psychopompe un peu, mais toutes les traditions religieuses, mystiques, ésotériques disent un peu la même chose là-dessus sur le travail qu'on peut faire. Donc voilà, enfin, je veux pas compliquer la fin de mon message, c'est l'amour, la conscience, c'est éternel. Et c'est au centre de l'univers.
Est-ce qu'on peut dire que finalement, on est dans un temps précis où la science rejoint complètement la religion?
Ah oui. Alors ça, les physiciens quantiques, les mystiques, les psys, les chamans, ils sont tous en train de se rejoindre. On parle de 2012 comme la fin du monde. En fait, ça sera la fin d'un monde, peut-être, d'un monde matérialiste. Mais d'ailleurs, les choses se passent. Moi, ça fait plusieurs années que j'entends tous les médiums, tous les mystiques, tous les gens qui s'intéressent à la parapsychologie, au chamanisme, dire qu'en ce moment, ça s'accélère énormément. Par exemple, l'INRES, qui est l'Institut National de Recherche sur les expériences extraordinaires en France, elle connaît un développement phénoménal. Il y a plein de scientifiques qui s'y adjoignent et qui accompagnent la démarche de l'INRES pour reconnaître l'existence de ces expériences extraordinaires et les étudier, non pas les éluder ou s'en moquer ou dire que c'est du charlatanisme ou autre quoi. Donc ça, c'est pas un hasard si c'est en train d'exploser aussi, ces structures. Parce qu'on est vraiment dans un moment précis, précieux, dans lequel la spiritualité revient dans la matière. Et peut-être que tout ce que c'est un peu comme en astrologie, les planètes on fait des schémas par rapport aux configurations des planètes les unes avec les autres, mais c'est jamais précis à un degré près. Ça peut être à 3 degrés près. C'est ce qu'on appelle une orbe, c'est-à-dire que le phénomène commence avant même que l'alignement se fasse. Et 2012, c'est pareil. On est déjà dans l'orbe. On est déjà dans ce qui va dans ce mouvement de changement de conscience planétaire. Ouais. Voilà, enfin ça, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends, c'est ce que... Bah, après, on va pas faire comme Paco Rabanne. Oui, il y a quelque chose d'essentiel qui se passe en ce moment.